s'il cherchait quelque chose. Celui-là connaissait la manufacture d'Arnoux. Elle était située à Montaterre. Frédéric s'enquit d'une voiture. On n'en trouvait qu'à la gare. Il y retourna. Une calèche disloquée, attelée d'un vieux cheval dont les harnais décousus pendaient dans les brancards, stationnait devant le bureau des bagages, solitairement. Un gamin s'offrit à découvrir le père Pilon. Il revint au bout de 10 minutes. Le père Pilon déjeunait. Frédéric, n'y tenant plus, partit. Mais la barrière du passage était close. Il fallut attendre que 2 convois eussent défilé. Enfin, il se précipita dans la campagne. La verdure monotone la faisait ressembler à un immense tapis de billard. Des scories de fer étaient rangées, sur les 2 bords de la route, comme des mètres de cailloux. Un peu plus loin, des cheminées d'usine fumaient les unes près des autres. En face de lui se dressait, sur une colline ronde, un petit château à tourelles avec le clocher quadrangulaire d'une église. De longs murs en dessous formaient des lignes irrégulières parmi les arbres, et tout en bas, les maisons du village s'étendaient. Elles sont à un seul étage, avec des escaliers de 3 marches faites de blocs sans ciment. On entendait par intervalles la sonnette d'un épicier. Des palourdes s'enfonçaient dans la boue noire, et une pluie fine tombait, coupant de 1000 hachures le ciel pâle. Frédéric suivit le milieu du pavé, puis il rencontra sur sa gauche, à l'entrée d'un chemin, un grand arc de bois qui portait écrit en lettres d'or « Faïence ». Ce n'était pas sans but que Jacques Arnoux avait choisi le voisinage de Creil. En plaçant sa manufacture le plus près possible de l'autre, accrédité depuis longtemps, il provoquait dans le public une confusion favorable à ses intérêts. Le principal corps de bâtiment s'appuyait sur le bord même d'une rivière qui traverse la prairie. La maison de maître, entourée d'un jardin, se distinguait par son perron orné de 4 bases où se hérissaient des cactus. Des amas de terre blanche séchaient sous des hangars. Il y en avait d'autres à l'air libre, et au milieu de la cour se tenait Sénécal, avec son éternel paletot bleu doublé de rouge. L'ancien répétiteur tendit sa main froide. « Vous venez pour le patron? Il n'est pas là. » Frédéric, décontenancé, répondit bêtement « Je le savais. » Mais se reprenant aussitôt, « C'est pour une affaire qui concerne Madame Arnoux. Peut-elle me recevoir ?»« Ah, je ne l'ai pas vue depuis 3 jours, » dit Sénécal. Et il entama une querelle de plaintes. En acceptant les conditions du fabricant, il avait entendu demeurer à Paris et non s'enfouir dans cette campagne, loin de ses amis privés de journaux. N'importe, il avait passé par là-dessus. Mais Arnoux ne paraissait faire nulle attention à son mérite. Il était borné d'ailleurs et rétrograde, ignorant comme pas un. Au lieu de chercher des perfectionnements artistiques, mieux aurait valu introduire des chauffages à la houille et au gaz. Le bourgeois s'enfonçait. Sénécal appuyait sur le mot. Bref, ses occupations lui déplaisaient. Il somma presque Frédéric de parler en sa faveur afin qu'on augmentât ses émoluments. « Soyez tranquille, » dit l'autre. Il ne rencontra personne dans l'escalier. Au premier étage, il avança la tête dans une pièce vide. C'était le salon. Il appela très haut. On ne répondit pas. Sans doute la cuisinière était sortie, la bonne aussi. Enfin, parvenu au second étage, il poussa une porte. Madame Arnoux était seule, devant une armoire à glace. La ceinture de sa robe de chambre entr'ouverte pendait le long de ses hanches. Tout un côté de ses cheveux lui faisait un flot noir sur l'épaule droite. Elle avait les 2 bras levés, retenant d'une main son chignon, tandis que l'autre y enfonçait une épingle. Elle jeta un cri et disparut. Puis elle revint correctement habillée. Sa taille, ses yeux, le bruit de sa robe, tout l'enchanta. Frédéric se retenait pour ne pas la couvrir de baisers. « Je vous demande pardon, » dit-elle, « mais je ne pouvais... » Il eut la hardiesse de l'interrompre. « Cependant, vous étiez très bien tout à l'heure. » Elle trouva sans doute le compliment un peu grossier, car ses pommettes se colorèrent. Il craignait de l'avoir offensée. Elle reprit. « Par quel bon hasard êtes-vous venu ?» Il ne sut que répondre, et après un petit ricanement qui lui donna le temps de réfléchir, « Si je vous le disais, me croiriez-vous? Pourquoi pas ?» Frédéric conta qu'il avait eu, l'autre nuit, un songe affreux. « J'ai rêvé que vous étiez gravement malade, près de mourir. »« Oh, ni moi ni mon mari ne sommes jamais malades. »« Je n'ai rêvé que de vous, » dit-il. Elle le regarda d'un air calme. « Les rêves ne se réalisent pas toujours. » Frédéric balbutia, chercha ses mots, et se lança enfin dans une longue période sur l'affinité des âmes. une force existait qui peut, à travers les espaces, mettre en rapport deux personnes, les avertir de ce qu'elles éprouvent et les faire se rejoindre. Elle l'écoutait, la tête basse, tout en souriant de son beau sourire. Il l'observait, du coin de l'œil, avec joie, et y penchait son amour plus librement sous la facilité d'un lieu commun. Elle proposa de lui montrer la fabrique, et comme elle insistait, il accepta. Pour le distraire d'abord par quelque chose d'amusant, elle lui fit voir l'espèce de musée qui décorait l'escalier. Les spécimens accrochés contre les murs ou posés sur des planchettes attestaient les efforts et les engouements successifs d'Arnoux. Après avoir cherché le rouge de cuivre des Chinois, il avait voulu faire des majoliques, des faenza, de l'étrusque, de l'oriental, tenter enfin quelques-uns des perfectionnements réalisés plus tard. Aussi remarquait-on, dans la série, de gros vases couverts de mandarins, des écuelles d'un morderet chatoyant, des pots rehaussés d'écritures arabes, des buires dans le goût de la Renaissance, et de larges assiettes avec deux personnages qui étaient comme dessinés à la sanguine d'une façon mignarde et vaporeuse. Il fabriquait maintenant des lettres d'enseigne, des étiquettes à vin, mais son intelligence n'était pas assez haute pour atteindre jusqu'à l'art, ni assez bourgeoise non plus pour viser exclusivement au profit, si bien que, sans contenter personne, il se ruinait. Tous deux considéraient ces choses quand Mademoiselle Marthe passa. « Tu ne le reconnais donc pas ?» lui dit sa mère. « Si fait, » reprit-elle en le saluant, tandis que son regard limpide et soupçonneux, son regard de vierge, semblait murmurer. « Que viens-tu faire ici, toi ?» Et elle montait les marches, la tête un peu tournée sur l'épaule. Madame Arnoux emmena Frédéric dans la cour, puis elle expliqua d'un ton sérieux comment on broie les terres, on les nettoie, on les tamise. L'important, c'est la préparation des pâtes. Et elle l'introduisit dans une salle que remplissaient des cuves, où virait sur lui-même un axe vertical armé de bras horizontaux. Frédéric s'en voulait de n'avoir pas refusé nettement sa proposition tout à l'heure. « Ce sont les patouillards, » dit-elle. Il trouva le mot grotesque et comme inconvenant dans sa bouche. De larges courroies filaient d'un bout à l'autre du plafond pour s'enrouler sur des tambours, et tout s'agitait d'une façon continue, mathématique, agaçante. Ils sortirent de là et passèrent près d'une cabane en ruine qui avait autrefois servi à mettre des instruments de jardinage. « Elle n'est plus utile, » dit Madame Arnoux. Il répliqua d'une voix tremblante, « Le bonheur peut y tenir. » Le tintamarre de la pompe à feu couvrit ses paroles et ils entrèrent dans l'atelier des ébauchages. Des hommes, assis à une table étroite, posaient devant eux, sur un disque tournant, une masse de pâtes. Leur main gauche en raclait l'intérieur, leur droite en caressait la surface, et l'on voyait s'élever des vases comme des fleurs qui s'épanouissent. Madame Arnoux fit exhiber